Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, super. Donc, comme Jean vous a dit, la souffrance, pas vous faire trop souffrir ce matin, mais vous encourager, de vous exhorter. On achève cette semaine, c'est l'avant-dernière sur la série de la souffrance. Donc, cette semaine, la semaine prochaine, c'est Jean, je pense. Et puis la semaine d'après, ça devrait être la dernière sur la souffrance. Ça dépend de vous aujourd'hui. Si vous êtes trop tannant, ben il va me rester des choses à dire. Fait que ça, on en aura un dimanche de plus. La souffrance. Dans les dernières semaines, on a pris le temps de regarder à comment traverser cette souffrance-là d'une façon plus concrète. Pendant qu'on est dans la souffrance, quoi faire? Comment agir pour s'en sortir, pour que la souffrance nous emmène vers son but, vers la croissance, au lieu de nous emmener à nous détruire, à faire l'inverse. On a regardé que c'est important de marcher, de constamment marcher, de ne pas s'arrêter, un jour à la fois, de pleurer, de faire confiance. L'élément de pleurer, de vraiment déverser son cœur, d'exprimer sa douleur, d'être honnête avec nous-mêmes sur ce que l'on vit, mais aussi devant Dieu. Hein? C'est devant Dieu de ne pas couper la relation avec Dieu, de constamment la nourrir et d'exprimer, de laisser nos cœurs s'exprimer de A à Z, peu importe le questionnement, peu importe ce qui vient, de l'emmener à Dieu. Et on a un Dieu qui comprend l'être humain, il comprend ce que la souffrance apporte dans sa vie et il est compatissant, rempli d'amour et il nous répond en fonction de ce qu'on a besoin de saisir. Lui faire confiance, de s'appuyer, de se détourner de lui dans nos souffrances en le maintenant responsable puis en coupant la relation avec lui, c'est pas ça faire confiance à Dieu. De constamment demeurer en relation avec lui, peu importe les circonstances. On a vu l'importance de la prière, de réellement prendre ce temps-là et de parler à Dieu. Et puis, la semaine passée, on a regardé penser, et cette semaine, on va s'attarder sur remercier et aimer. Et puis, dans deux semaines, la dernière, c'est espérer. Chacune de ces choses-là font partie du processus, de la démarche pour traverser la souffrance. Et on a de multiples exemples de chacun de ces éléments-là dans les Écritures. Et c'est très important de comprendre que chaque souffrance est unique, je le répète encore, parce que je veux que ça reste. Chaque souffrance est unique. Le chemin que toi, tu as suivi pour te sortir de tes souffrances, ne sera pas le même chemin pour les autres. On peut accompagner les gens dans l'étape où ils sont rendus, mais ne pas lui imposer notre chemin, de ne pas lui imposer notre étape, notre compréhension et notre vision de ce pourquoi il souffre. De laisser Dieu lui montrer et puis de se laisser diriger par le Seigneur à travers cet accompagnement-là pour être un outil entre les mains de Dieu dans notre accompagnement, au lieu de voir la personne comme un projet, puis là, il faut qu'elle se sente mieux. Fait que, quand on agit comme ça, que la personne devient un projet, on n'est pas dans l'amour. Puis la personne, ça se sent, on ne lui fait pas nécessairement toujours du bien. La semaine passée, on a pris le temps de regarder à Paul dans Philippiens. Dans Philippiens 4, le dernier verset qu'on a vu, c'était Philippiens 4, 12. On a pris le temps de regarder les versets 7 à 12, je crois. Il dit ceci, « C'est le secret que j'ai appris. » On met l'emphase sur le mot « appris ». Ce n'est pas inné chez Paul. C'est quelque chose qui est venu par l'apprentissage. Il dit, « J'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Paul a appris à être en paix, à être dans l'accueil, peu importe ce qui lui est présenté. Il s'accommode à toutes les situations et à toutes les circonstances, que ce soit des circonstances plaisantes, ou ce qui est rassasié, ou déplaisantes, qu'il soit dans la faim, qu'il soit dans l'abondance ou qu'il soit dans le besoin. Il y a quelque chose chez Paul qui ne change pas, qui est au-dessus de tout ça et qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça que Paul a appris. Et dans ce qu'on a vu, on a pris le temps de regarder justement à cet élément-là, la paix de Dieu. Paul est en paix, peu importe ce qui arrive. Il dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc, la paix de Dieu qui surpasse tout gardera votre cœur, votre pensée, sous la protection de Jésus-Christ. Et le mot « protection » ici, c'est vraiment l'idée d'une ville qui est protégée par une armée. Tu peux dormir tranquille parce que tu es sous la protection des renforts, tu es sous la protection des murs, la protection de l'armée qui est là. Toi, tu peux dormir tranquille même si tu es assailli. Donc, on avait vu que cette paix-là n'est pas basée sur une absence, mais elle est basée sur une présence. Les gens aujourd'hui essaient de surmonter tout ce qui leur amène le stress, l'anxiété, toutes ces choses-là, par une absence. On rejette les émotions négatives. On fait le vide. On s'en va dans la méditation. On prend le temps de prendre un temps. On prend un temps à part dans le but de faire le vide, de se détacher de ce qui nous emmène notre stress, de ce qui nous emmène notre souffrance. Et c'est dans l'absence de désir, dans l'absence de ces émotions négatives-là, qu'on va trouver la paix. Mais est-ce que c'est réellement une paix durable? La caractéristique de cet élément-là, c'est qu'on va avoir constamment besoin de repousser, de s'éloigner, de faire le vide constamment. Et ça va dépendre tout le temps des circonstances. Tandis que la paix qui nous est présentée ici, ce n'est pas basé sur une absence, sur le faire le vide, mais au contraire, sur une présence. Sur la présence de Jésus-Christ. La paix de Dieu va nous garder notre cœur et nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. C'est une présence. C'est la présence de ce qui nous protège qui va nous donner la paix. Mais pour ça, il faut connaître, justement, cette personne-là qui est supposée nous apporter la paix par sa présence. Si on ne le connaît pas, on ne saura pas qu'on peut lui faire confiance, alors on ne sera pas dans la paix. Il faut connaître cette personne-là. La paix de Dieu, qui est basée sur la présence de Dieu, va surpasser tout ce qu'on peut concevoir. Gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et on a vu que pour vivre dans la paix, dans Philippiens 4, Paul, il donne un peu il mentionne les disciplines qu'on a à développer dans notre vie pour y arriver. Comme il a dit, c'est quelque chose qui s'apprend. Il a appris à ce que sa paix, à ce que sa joie ne dépendent pas des circonstances. Il a appris que sa paix, sa joie dépendent de Dieu, de Jésus-Christ. Ça s'apprend. Et dans Philippiens 4, il nous parle de trois disciplines à développer pour y arriver. La pensée, remercier et aimer. Oui, Jean-Claude, as-tu quelque chose à dire? OK. Oui?
Je trouve ça intéressant parce que c'est dans Ésaïe, je pense c'est 9:5.
Ésaïe 9:5.
Parlant du Seigneur Jésus, il est écrit qu'il est le prince de la paix, celui qui procure la paix. Il n'y en a pas d'autre qui a été nommé Et la paix dont on parle ce matin, et comme la semaine passée, procède de celui-là seul qui peut offrir cette paix dont tu décris.
Dans ce passage-là, Jésus est présenté comme étant le prince de paix, comme étant le seul qui peut lui donner la paix, effectivement.
Il y a plusieurs titres qui lui sont attribués dans Ésaïe 9:5, mais entre autres, le prince de la paix.
Le prince de la paix. Ésaïe 9:5. Oui, puis on le voit clairement, ça suit très bien ce que Paul dit. C'est la présence de Jésus, c'est sa protection qui va nous emmener dans la paix de Dieu, qui est plus grande que toute autre paix que le monde ou que quelque chose peut nous apporter. C'est une paix qui surpasse ce qu'on peut comprendre, parce qu'elle est basée sur la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu. Et on va y revenir dans ça. Donc, la semaine passée, on a pris le temps vraiment de regarder à la pensée. Et c'est vraiment un élément clé, vraiment, vraiment important. Hein? Enfin, dans Philippiens 4, 8 et 9, il dit, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. » Et l'idée de les nourrir, c'est vraiment de les exposer, de rappeler à ta pensée ces choses-là. De tout ce qui est vrai, noble, juste, digne, pur, digne d'amour et ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Donc on voit encore là que la paix dépend de la présence de Dieu. Et c'est pas basé sur une absence, mais sur une présence. Et nous, notre exercice, c'est vraiment clair, là. C'est nous. On a un effort à faire. Si nous, on fait ça, voici ce qui va se produire. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Et vous aurez la paix, parce que la paix découle de sa présence. Elle vient de sa présence, de sa personne. Nourrir vos pensées, il commence avec ça, puis par la suite, il dit avec quoi on doit nourrir toutes nos pensées. La pensée, c'est vraiment clé, c'est vraiment important. Je veux pas contredire ceux qui sont beaucoup basés sur les émotions ce matin. On a vu dans les dernières semaines, il y a des gens, c'est moi, je suis une personne de cœur. Puis la pensée, ben c'est trop cérébral. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. On peut être une personne de cœur et penser pareil, j'espère. Hein? C'est parce que sinon, ben, ça fait pas de sens. On pense pareil, OK? Tout le monde, notre pensée contrôle beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est drôle de phrase, hein? Notre pensée contrôle beaucoup plus que ce qu'on pense, que ce qu'on peut penser. Voici un peu comment ça marche, la pensée. OK? Pourquoi la pensée est importante? Et je voulais pas présenter la semaine passée ce tableau-là, mais je prends le temps de le faire ce matin. Dans la vie, il nous arrive des circonstances, OK? Et on n'a aucun contrôle sur les circonstances, c'est des choses qui sont extérieures à nous, même si on aimerait les contrôler pour que notre vie soit calme et paisible et comme on le voudrait, c'est simplement impossible, OK, humainement parlant. Donc, les circonstances, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et quand on est exposé à un événement, à une circonstance, la première chose qui se produit en nous concerne la pensée. Je vais interpréter ce qui se produit. OK? C'est la première étape dans ma vie. J'interprète ce qui se produit. Je me raconte une histoire en fonction de ce qui se produit. OK? Et la façon dont je pense va susciter par la suite une émotion. Et cette émotion-là va susciter une action, une réaction. OK? C'est toujours comme ça. Le premier endroit dans la chaîne où moi j'ai un contrôle, c'est au niveau de ma pensée. C'est la première étape. La façon dont j'interprète les circonstances. Et c'est pas pour rien que Paul, il nous dit d'exposer notre pensée à tout ce qui suit. Parce que c'est vraiment la porte d'entrée qui va mener jusqu'à l'action et qui va influencer l'émotion qui va être négative ou positive face à la circonstance. C'est l'histoire que je me raconte face aux circonstances. C'est ma façon d'interpréter ce que je vis, ce que je vois, qui va déclencher tout le reste. Donc, la pensée, un être humain, là, avec le temps, on a compris, on a fait des patterns de comment l'être humain fonctionne, réfléchit, et là, on en a un, là. Et la première étape, c'est la pensée. Donc, de nourrir nos pensées. Les choses à laquelle Paul nous dit de consacrer notre pensée, c'est à tout ce qui est vrai, noble et juste, pur. Toutes ces choses-là concernent directement l'Évangile, concernent directement la personne de Dieu. De se rappeler constamment les vérités sur la personne de Dieu. Les vérités de l'Évangile, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? De constamment rappeler ces vérités-là à notre tête, qui influence notre cœur. OK? C'est vraiment important. Et c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Et cette semaine, on va passer à l'autre étape, qui est digne d'amour ou d'approbation. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va voir en deuxième ce matin. On va commencer avec l'autre, qui est dans Philippiens 4, 6, juste avant, qui dit ceci. On avait dit, il y a trois disciplines qui nous est présentées dans ce passage-là. Il y a la discipline de nos pensées, la discipline de notre reconnaissance et la discipline d'aimer. Donc là, on va aller à la discipline de la reconnaissance qu'on voit dans Philippiens 4, 6, qui dit ceci. « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Donc, on a l'élément ici d'exposer nos demandes à Dieu. On revient à l'élément de prier, d'exposer constamment nos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications également. Pas juste des demandes, mais il y a l'élément de supplication aussi. Et c'est vraiment d'exposer notre cœur à Dieu, d'exposer les fardeaux de nos cœurs, d'exposer les désirs qui sont dans nos cœurs. C'est réellement l'idée de supplier Dieu d'agir. Donc, c'est pas juste des requêtes froides, secs, qui concernent les choses physiques. Ça concerne aussi notre vie intérieure, notre émotion, notre cœur, de répandre notre cœur devant Dieu. Donc, si on fait ça constamment, ça va diminuer notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété en tant qu'être humain. Parce qu'on donne à Dieu nos fardeaux. On donne à Dieu, on présente à Dieu nos besoins. Seigneur, je te présente mes besoins. Je te remets la responsabilité de pourvoir pour moi. Et de faire ça tout en connaissant la personne de Dieu, ça nous enlève un stress énorme sur les épaules. Et le dernier point, c'est tout en lui exprimant votre reconnaissance. C'est très intéressant ici que Paul, il mentionne pas la reconnaissance après que Dieu ait répondu. Mais la reconnaissance fait partie de la requête. Déjà, en faisant la demande, en exprimant nos supplications, en répandant notre cœur, on remercie Dieu tout de suite. Et ça, ça fait directement référence à la souveraineté de Dieu. Directement référence à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans notre vie. De comprendre qui Dieu est nous permet tout de suite de dire merci au Seigneur en sachant très, très bien que la façon dont Dieu va répondre, ça va être pour le mieux dans notre vie. Qu'il nous accorde ou qu'il ne nous accorde pas notre quête ou notre supplication, on reconnaît tout de suite que sa réponse va faire est la meilleure pour nous dans notre situation. Pourquoi? Parce qu'on connaît la personne de Dieu. Et quand on regarde dans les Écritures, le passage de Genèse 50, verset 20, est une représentation parfaite de ce passage-là. C'est Joseph qui parle dans Genèse 50, verset 20, qui dit ceci. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph, il n'en voulait pas à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la souveraineté de Dieu. Dans tous les malheurs qui lui étaient arrivés, maintenant, il en comprenait le sens. Et il dit, vous aviez projeté de faire du mal, mais Dieu, à travers le mal que vous avez fait, a projeté de faire du bien. Donc, je reconnais la souveraineté de Dieu et je m'en remets entièrement à lui. Je n'ai pas à me venger, je n'ai pas à aller chercher rétribution de ce que vous m'avez fait, même si ce qu'ils ont fait lui a apporté beaucoup de souffrance. Il a vu la souveraineté de Dieu dans sa vie. Romains 8, 28 aussi, la même chose. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, 28. Il y a l'élément du plan divin dans ce passage-là. Hein? Ceux qui ont été appelés selon le plan divin, ça fait référence directement à la souveraineté de Dieu. Et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui l'aiment. Ces deux passages-là, c'est important de les remettre dans son contexte et de mettre les lunettes de Dieu. Quand Dieu dit ces choses-là, est-ce que ça veut dire que c'est inévitable, je vais voir l'aboutissement définitif de toutes mes souffrances pendant ma vie? Absolument pas. Il faut comprendre ici que Dieu voit, il y a l'éternité devant lui. OK? Et Dieu voit la fin avant même qu'elle se produise. Et qu'est-ce qu'il nous dit qui va se produire à la fin? Il n'y aura plus de larmes. Dieu va essuyer toute larme. Dieu va mettre fin à toute la souffrance. Non seulement il va mettre fin à toutes les souffrances, il va restaurer également toutes choses. Donc, toutes ces souffrances-là, si on n'en voit pas l'aboutissement dans notre vie, il faut quand même s'en remettre à Dieu parce que dans l'éternité, quand Dieu va mettre fin à toute chose, là, on va en comprendre leur aboutissement. Non seulement ça, mais ça nous dit qu'ils vont être pour nous un sujet de gloire. C'est quand même intéressant dans 1 Pierre. On ne vit pas toutes ces souffrances-là pour rien. Même si on n'en voit pas l'aboutissement ici sur la terre. Et c'est important de comprendre cette notion-là éternelle de la perspective de Dieu. Parce qu'avec notre perspective terrestre, bien, à un moment donné, on pourrait taper du pied puis on pourrait dire, Seigneur, il commencerait à être le temps, là. Mais semble, dans les dernières années, j'ai eu coup sur coup, puis je m'en trouve beaucoup plus mal que ce que j'étais avant que tout ça m'arrive. Il serait peut-être temps que tu me repompes un peu puis que ça se tourne de bord. Tu sais, je pense à Job. Tu sais, Job, tu l'as rendu 2 fois plus riche que ce qu'il était avant de le tourmenter. Avant qu'il n'arrête pas de le tourmenter, mais avant que ses malheurs lui tombent dessus. Après ça, Joseph, lui, dans sa vie, ben écoute, il a fini 2e de Pharaon. Hein? J'aimerais ça, moi aussi, que tu penses à moi. On pourrait penser ça, je vous invite à exprimer vos besoins et vos supplications au Seigneur, mais de vous en remettre entièrement à sa souveraineté, en ayant cette perspective-là éternelle que un jour, on va en voir les aboutissements. Un jour. Au temps voulu de Dieu. Mais on ne contrôle pas notre histoire. Notre histoire, elle est entre les mains de Dieu. Mais en connaissant ce Dieu-là, on peut avoir pleinement confiance que, en bout de ligne, pour ce qui compte réellement, qui est la vie éternelle, on va recevoir consolation. On va comprendre toutes ces choses-là. Et non seulement ça, ça va nous emmener dans une admiration de Dieu, de Jésus, encore plus grande que si on ne les aurait pas vécues. Et c'est pas négligeable, cet élément-là, cet aspect-là. Donc, de s'en remettre à sa souveraineté. Dieu est souverain et nous devons lui faire confiance. Parce qu'il est souverain, nous devons le remercier à l'avance pour tout ce qu'il nous donne, même si nous ne le comprenons pas. Donc, la reconnaissance, très, 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 très important, même à travers la souffrance. Quand on croit qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on pourrait remercier le Seigneur, non, c'est faux. Il ne faut pas tomber dans ce passage, dans ce mensonge-là. De continuer dans la reconnaissance. Chaque jour que Dieu nous donne est une grâce. Juste le fait d'être présent aujourd'hui est une grâce. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on peut remercier le Seigneur. Et dans la souffrance, comme on est appelé à prier constamment, ben, puis à faire connaître nos besoins, à répandre notre cœur devant lui dans la souffrance, ben, ne pas oublier la partie de reconnaissance. Celle où est-ce qu'on se rappelle et on se répète et on se remet, si on peut dire, devant nous la vérité de la souveraineté de Dieu. Le remerciement à la fin de nos prières, pendant nos prières, va nous rappeler la souveraineté de Dieu, va nous rappeler qui Dieu est dans la souffrance. Et tranquillement, de faire ça au quotidien, de marcher jour après jour, on va finir par voir la lumière. À un moment donné, la lumière va percer dans notre noirceur et le soleil va se relever graduellement, comme on a vu dans Proverbe. C'est très important de faire ces choses-là, la reconnaissance. L'autre élément, on a commencé à le voir, l'autre discipline, on avait commencé à le voir, Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur. Donc, on a vraiment l'élément... les vertus chrétiennes, mais également l'élément de se rappeler les vérités bibliques. L'autre qui nous concerne, c'est qui est digne d'amour ou d'approbation de tout ce qui est vertueux et mérite de louange. L'élément digne d'amour et d'approbation amène, si on peut dire, un autre volet de ce que Paul nous présente, à laquelle il veut qu'on porte une attention particulière. Oui, il y a l'élément intellectuel de connaissance, les vertus, la parole de Dieu, bien agir, puis toutes ces choses-là, mais là, il s'en va plus du côté du cœur. L'élément d'aimer, de ce qui est digne d'amour ou d'approbation. De façon... Une définition, quand quelque chose est digne d'amour ou d'approbation, c'est qu'inévitablement, c'est quelque chose de beau et de bon. Quelque chose, l'amour, là, c'est une émotion. Il y a quelque chose, l'amour, on a une attirance vers les choses que l'on aime. Il y a quelque chose dans ce que l'on aime qui nous attire, qui est beau et qui... selon nous, va nous faire du bien. OK? Donc, l'amour est toujours une réponse à quelque chose de beau et de bon. Donc, il dit ici de nourrir nos pensées et de s'attarder aux choses qui sont dignes d'amour, qui méritent, qui sont vraiment belles et bonnes pour nous. Comprenez bien? De consacrer nos pensées à des choses qui sont réellement belles et réellement bonnes pour nous. Quand on expose nos cœurs aux choses qui sont belles et réellement bonnes pour nous, nos cœurs vont naturellement se mettre à aimer ces choses-là. C'est une attirance. C'est une réaction, l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui se force. C'est quelque chose qui est présent ou qui n'est pas présent en fonction de ce que l'on voit, en fonction de ce qui est exposé devant nous. J'essaie de me retrouver dans mes notes. Donnez-moi quelques minutes. Ouais, c'est ça, j'avais sauté une page. Par définition, ce qui est digne d'amour est non seulement vrai, mais aussi attirant. Je pense que Paul appelle ici ses lecteurs à mettre de l'ordre dans leurs pensées ainsi qu'à écouter les manifestations de leur cœur. D'apporter une attention à ce que notre cœur manifeste. C'est pas tout de penser à ce qui est juste, il importe également d'aimer ce qui est digne d'être aimé. Et qu'est-ce qui est digne d'être aimé? Connaissez-vous des choses qui sont dignes d'être aimées, qui sont dignes d'amour ou d'approbation? En connaissez-vous? À quoi qu'on fait référence? À quoi qu'on peut faire référence dans ce passage-là? Ben, c'est important, là. On veut mettre ces choses-là en pratique, donc on veut nourrir nos pensées, les exposer à la parole de Dieu, connaître qui est Dieu, hein, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur. Mais on veut également que nos cœurs soient attirés par des choses qui sont dignes d'amour et d'approbation. Donc, il y a vraiment l'élément de sonder nos cœurs constamment dans cette discipline-là, de tout ce qui est vertueux, mérite, louange. Des exemples de ces choses-là. Consacrer notre pensée à quoi? Oui, Richard.
En fait, si on veut ressembler à Jésus, à Christ, on doit effectivement se concentrer comment Jésus était, qu'est-ce qu'il faisait, et puis lire les évangiles. Et puis, à ce moment-là, ça nous amène à notre renouvellement d'intelligence. Ça nous amène aussi à aimer ce que Jésus aime, ce que Dieu aime. Et ça nous fait aussi éliminer le superflu.
Oui. Donc, vraiment, l'élément de s'exposer à la personne de Jésus, de garder nos yeux sur lui, sur son œuvre, sur ce qu'il a fait, puis de laisser ces choses-là pénétrer dans nos vies. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui est digne d'amour ou d'approbation? Il y a la personne de Dieu. Dieu. Quand Paul dit ça ici, là, qui est digne de notre amour? Qui est digne d'approbation de ce qui est vertueux et qui mérite la louange? Mais premièrement, il y a la personne de Dieu. C'est sûr qu'il y a la notion que nos cœurs soient attachés à la personne de Dieu, non seulement juste intellectuelle, mais que tout notre être soit profondément attaché à la personne de Dieu. Et comme l'amour est une réaction, si on ne s'expose jamais à la personne de Dieu, mais qu'on prend toujours le temps de s'exposer aux choses de ce monde, aux choses qui nous entourent, sans jamais s'exposer à la personne de Dieu, qu'est-ce que nos cœurs, d'une façon naturelle, vont se mettre à aimer? Inévitablement, les choses du monde. Inévitablement. Inévitablement. Parce que nos cœurs vont s'attacher à ce qu'ils voient. Si on ne voit pas Dieu ou on ne s'expose pas à la personne de Dieu, nos cœurs ne peuvent pas être attirés par Dieu. C'est même le contraire. Nos cœurs luttent contre la pensée de Dieu, contre la personne de Dieu. C'est vraiment une lutte et ça nous est présenté à plusieurs égards dans les Écritures. Lutter contre notre chair, parce que notre chair n'est pas attirée par les choses de Dieu. Au contraire, quand notre chair est laissée à elle-même, on voit tout ce que ça l'emmène. De tous les contraires de ce qui est écrit là. Mais à ses yeux, les choses du monde sont vraies, sont nobles, sont justes, sont pures, sont dignes d'amour, d'approbation. C'est vertueux, puis ça mérite louange. Aux yeux du monde, les choses du monde correspondent à cette description-là.
Et le conflit, c'est qu'en tant que chrétien, les choses qui sont contraires à ce qui est écrit là vont nous attirer aussi.
Les choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans Philippiens 4:8 vont nous attirer également parce qu'on est, on est des êtres humains.
Maintenant, la façon... d'avoir la victoire dans ces combats-là, parce que ça en est pas.
C'est tout qu'un combat, oui, pour avoir la victoire.
C'est pour ça, tantôt, que l'idée des pensées, c'est la notion d'imprégner par la vérité et tout ce qui s'en fait.
Oui, pour nourrir nos pensées, c'est d'imprégner nos pensées de ce qui est vrai, de ce qui est vraiment vrai. Et ce qui est vraiment vrai, la vision du monde qui est vraiment vraie, c'est celle que Dieu nous présente, c'est celle qu'on retrouve dans les Écritures et tout s'ensuit. Et les attirances de notre cœur vont être grandement influencées par ce à quoi on s'expose, à ce à quoi on s'expose. Et on peut pas se compter de menterie sur ce sujet-là. C'est présent ou c'est pas présent. L'amour est présent ou l'amour n'est pas présent. Et ça ne se force pas. C'est quelque chose qui se produit. C'est le fruit de s'être exposé à quelque chose de beau et de bien pour nous qui va créer l'amour et les attirances. Donc, ça nous amène à ouvrir le sujet des attirances de nos cœurs. Hein, et c'est tout qu'un sujet, ce à par quoi nos cœurs sont attirés. On en parle déjà depuis quelque temps. Mais j'aimerais vous exposer un peu à un courant de pensée par rapport à toutes ces choses-là. Puis, la raison pour laquelle je trouve ça intéressant de l'amener ici, c'est parce que, justement, ça fait directement référence à ce à quoi on est en train de parler. Et puis, la question de la paix, du contentement. Paul était dans la paix. Hein? Il se contentait, il est dans le contentement, qu'il soit dans l'abondance ou dans la faim, ça ne dérange pas, il est heureux pareil. Il se contente. Et puis, il y avait beaucoup d'écoles de pensée à l'époque. Il y avait toutes les Grecs hein, qui avaient beaucoup de philosophie, beaucoup de courants de pensée. Et puis, il y avait l'école stoïcienne qui s'est penchée le plus sur la question du contentement. Puis voici ce qu'elle disait par rapport au contentement. Et je prends ça du livre sur les souffrances de Timothy Keller. Il dit, « Les stoïciens enseignaient que la plupart des hommes sont capables de vivre des vies paisibles dans le contentement. Parce qu'ils s'attachent trop aux choses. Selon eux, il ne faut pas trop aimer le succès, car même acquis, vous serez toujours inquiet. Vous n'aurez jamais la paix, car vous craindrez de le perdre. De même, il ne faut pas mettre votre famille à la première place dans vos cœurs, car si vous avez une bonne famille, elle vous causera toujours des soucis. Et s'il arrive un malheur, vous serez foudroyé, parce que le problème provient de votre amour placé en des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. » Jusque-là, on est d'accord. Hein? Donc, de ne pas attacher nos cœurs à des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Jusque-là, ça peut aller. Mais pousser à l'extrême, ça veut dire que les stoïciens vivre dans un détachement. Il ne faut pas que tu t'attaches à ta famille. Il ne faut pas que tu t'attaches à ton travail. Il ne faut pas que tu t'attaches aux choses de ce monde parce que tu n'as pas de contrôle. C'est-tu vraiment bon? Je vois des grimaces, là. Tantôt, vous étiez d'accord. Puis là, je vois des grimaces. Oui?
Je veux dire, si je comprends, l'idée, c'est pas de... pas de s'attacher, c'est d'aimer.
Quand on parle de s'attacher, il y a le mot aimer là-dedans. Là. Parce que aimer, c'est que nos cœurs s'attachent. Il y a quelque chose, là, d'aimer.
Oui, mais c'est parce que c'est ça, des fois, c'est ça, faut-tu comprendre aussi le vrai sens d'aimer?
OK. Comprendre le vrai sens d'aimer. Aimer parce que ça m'apporte quelque chose. Voici. OK.
Parce que je donne, tu vois, parce que je suis comblé par la présence de Dieu dans ma vie, bien tout ça. Ben, c'est pas le même genre d'amour. Souvent, on aide ça, aimer, j'aime quelqu'un, mais des fois, je m'aperçois que je l'aime parce qu'il m'apporte quelque chose. Mm-hmm. S'il ne me l'apporte pas, je l'aime plus.
Effectivement, ben, c'est comme il dit.
On lutte avec ça parce que c'est présent dans nos vies, mais Dieu nous invite, dans le fond, c'est ça, l'idée digne d'amour, d'approbation, si on va vers Dieu, ben, au départ, mais on pourrait dire aussi, on est appelé à aimer les hommes aussi. C'est pas juste aimer Dieu. T'sais. Jean, il dit... Comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Ça fait que, tiens, les deux sont là. Ça fait que le vrai amour, quelque part, c'est parce que j'ai tout reçu, et là, je peux le donner aux autres.
Et que l'idée du vrai amour qui nous est présenté là, c'est pas celui de recevoir parce que tu m'apportes quelque chose. C'est l'élément de dire, j'ai tout reçu en Jésus, donc, en Dieu, donc je suis capable de donner, je suis capable d'aimer. Donc, l'attachement n'est pas sur des choses que ça nous donne, que ça nous procure, mais au contraire, c'est de le faire, d'être en mesure de leur donner, de leur faire du bien. La distinction est bien. Oui, la distinction est bien. Parce que on comprend que on peut tomber dans un extrême, mais de dire que, écoute là, tout ce que tu vas aimer dans le monde va t'apporter souffrance, parce qu'ils vont te décevoir à un moment donné, OK? Donc, la seule chose qui est digne de ton amour et d'être aimé, c'est Dieu. Donc, si t'es déçu d'avoir perdu ton emploi, mais c'est que t'aimais quelque chose que t'avais pas à aimer. Fait que tourne tes regards seulement vers Dieu. OK? Ça va amener vers ça, mais on va comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, là, c'est simple. C'est trop 2 plus 2 égale 4, OK? C'est beaucoup plus complexe que ça, l'être humain. Et l'approche stoïcienne, ben eux, ils s'en vont vraiment dans l'idée de faire le vide, si on peut dire, de mettre un mur, de ne pas s'attacher aux choses de ce monde sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mais voici ce à quoi eux disent de s'attacher, OK? Voici ce que eux, la suite des choses. Les philosophes conseillent donc, de ne rien aimer vraiment, si ce n'est notre propre vertu. Pourquoi? Parce que vous pouvez contrôler votre caractère. Vous ne pouvez garantir votre succès. Vous ne pouvez garder votre famille en vie à jamais. Vous ne contrôlez rien, mis à part votre cœur. Alors, investissez-le uniquement dans vos propres vertus. Être courageux, intègre et honnête, constitue votre choix. Le seul fait de savoir que vous êtes en train de devenir la personne que vous voulez être peut vous rendre heureux. Vous ne connaîtrez la sérénité que si vous faites vos propres choix intérieurs. Cela reste sous votre contrôle, alors que rien d'autre ne l'est. Non, mais ils ont réfléchi pareil. C'est vrai. C'est quand même très intéressant parce que c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler les circonstances. Ils ont quand même compris que quand nos cœurs s'attachent à quelque chose et quand on le perd, ça va nous apporter souffrance. Et quand on veut vivre dans la paix et la quiétude, inévitablement, il ne faut pas que tu laisses ça arriver. Sinon, tu t'exposes au potentiel de perdre ta paix, ta joie et ton bonheur. La seule chose sur laquelle tu as un réel contrôle, c'est toi. Hein? Ma pensée, ma façon de voir les choses, ma vertu. Et que ça ne dépend pas des autres. Et c'est un courant de pensée qui est encore très, très, très présent et je crois qu'il est en train de prendre encore plus de place dans notre culture aujourd'hui. Tu sais, toutes les phrases qu'on voit là, « la solution est en toi ». Et c'est exactement ça. Ça se rapproche très, très fort de ça. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est investir en toi. Ton emploi, on peut te l'enlever, mais tes compétences, on ne peut pas te les enlever. Ton caractère, on ne peut pas te les enlever. Ton intelligence émotionnelle, on ne peut pas te l'enlever. C'est la seule chose sur laquelle tu peux compter et sois heureux de les développer et d'être mature ou plus mature ou de grandir dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus présent, cette pensée-là. Mais est-ce qu'on peut réellement s'appuyer sur notre vertu? On peut-tu réellement avoir le contrôle sur notre vertu? C'est pas ce que Dieu dit. Et même au-delà de ça, ce n'est pas non plus ce que l'expérience nous dit. Il y a des gens qui, en bout de ligne, se sont rendus à faire des gestes que jamais ils n'auraient pensé faire, même s'ils ont travaillé toute leur vie sur leur personne puis sur leur être. On ne peut pas se fier sur notre vertu, justement parce qu'on est des êtres trop complexes. L'être humain est une somme de plein de facteurs, que ce soit ton corps, ton âme, ton esprit, tes émotions, ta pensée, toutes ces choses-là vont fluctuer dans le temps également. Tu ne peux pas plus t'appuyer sur ces choses-là. Et il y a une personne, un grand penseur chrétien, chrétien des années du 3e, 4e siècle, qui a réagi très fort à cette théorie-là des stoïciens. Et lui, il dit, cette théorie-là est complètement fausse. Et il dit, voici ce sur quoi on peut réellement baser notre paix ou le fondement de notre paix. Et c'est Augustin qui a dit ceci, « Seul l'amour de l'immuable peut nous donner la quiétude. La seule chose qui peut nous apporter notre paix, c'est l'amour de quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne change pas. La seule source de paix fiable, la seule, c'est que nos cœurs soient attachés à quelque chose d'immuable, à quelque chose qui ne peut pas changer en fonction des circonstances. Parce que notre vertu, elle va changer en fonction des circonstances. On peut perdre nos compétences du jour au lendemain à cause de la maladie, à cause d'un accident. On peut perdre une partie de notre capacité cognitive du jour au lendemain. On a beau avoir travaillé toute notre vie sur notre caractère, avoir atteint une forme de paix qui nous satisfait. Du jour au lendemain, à cause d'un accident, d'une maladie, tu peux perdre tout ça. Puis continuer à vivre bien des années avec cette forme de limitation-là, qui n'est pas nécessairement toujours physique, mais qui est cérébrale, qui vient toucher directement ta vertu. Puis il y a d'autres éléments aussi qui peuvent venir faire fluctuer notre travail sur nous-mêmes. Mais la seule source, le seul amour qui peut nous donner une quiétude qui est sûre tout au long de notre vie, c'est l'amour de l'immuable. C'est d'aimer quelque chose d'immuable. C'est mon téléphone, ça. C'est d'aimer quelque chose d'immuable. OK? Et la seule personne qui est immuable, c'est Dieu. Sa présence et son amour. C'est la seule chose. Je vais aller l'éteindre parce que ça va sonner longtemps. Une belle sonnette, une sonnerie, ouais. C'est beau, hein? C'est de la quiétude, ça. Bon, ça vient de finir. Je vais le rappeler tout de suite. Ça vous a aidé? Ça vous a fait du bien? Mais la seule source de ce qui peut réellement nous apporter une quiétude qui est fiable, c'est l'amour de l'immuable. C'est que notre cœur soit attaché à l'immuable. Il y a seulement l'amour de Dieu. Seul l'amour de l'immuable peut nous donner la quiétude, et la seule chose qui est immuable, c'est Dieu, sa présence et son amour. quand même intéressant comme réponse à ce courant de pensée qui prend beaucoup de place dans nos vies, même dans les églises, parce qu'on est influencé par le monde. C'est le seul amour qui ne nous décevra jamais. Oui?
Une chose que les stoïciens ne tenaient pas compte, c'est que l'homme, fondamentalement, est pécheur.
Les stoïciens ne tenaient pas compte que fondamentalement l'homme était pécheur, effectivement. Mais toute cette notion-là de péché est devenue de nos jours beaucoup plus abstraite que la notion de paix dans ton cœur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je prends le temps de le présenter sous cet angle-là, peut-être plus, parce que aujourd'hui, quand on va voir les gens, puis on leur dit qu'ils sont pécheurs, puis ils vont dire « ouais, puis ». C'est quoi ça veut dire, ça, être pécheur? Dans la culture aujourd'hui, les êtres humains ne cherchent plus à être justes, comme c'était le temps avant. Dans votre génération, les gens avaient une notion d'être bon, d'être juste, qui leur venait de leur bagage d'enfance catholique. Quand tu disais à quelqu'un « t'es pécheur », il savait tout de suite à quoi ça faisait référence. Ça faisait référence à la sainteté de Dieu et j'ai un problème parce que moi, je suis pas saint, donc je pourrais pas me présenter devant Dieu. Dieu me recevra pas. Donc, je dois être juste, je dois être bon. Cette notion-là était très présente. Et aujourd'hui, tu vas voir un jeune et tu dis « t'es pécheur ». Ah, c'est quoi ça? Tu veux-tu aller au ciel? Ben, le ciel... Je crois pas vraiment au ciel, fait que non, mais qu'est-ce que tu entends par ciel, toi? Comprenez? Ça l'a changé complètement. Mais quand on parle de paix, oh! Veux-tu être en paix? Connais-tu la vraie paix? Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Wow! L'effet sera pas le même. Après ça, on vient à expliquer pourquoi qu'on n'est pas en paix. Et on est en mesure d'expliquer qu'est-ce qui peut réellement apporter une paix. C'est l'amour de quelque chose qui est immuable. Ça ne change pas. Et c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu qui ne change pas. La présence de Dieu qui ne change pas. Son approbation, sa présence, son accueil, tout ce qui implique la personne de Dieu ne changera jamais. Peu importe les circonstances. Et là, ça devient un fondement pour ma paix et ma joie, qui est fiable, solide, parce qu'il vient transcender et par-dessus tout ce qui peut, humainement parlant, menacer ma paix, en me retirant ce qui m'apportait justement ce réconfort-là. Donc, dois-je aimer Dieu et rien d'autre? Ça nous ramène à la question qu'on a parlé tantôt. Est-ce que maintenant, ça veut dire que la seule chose que je dois aimer, c'est Dieu? Rien d'autre. C'est-tu ça la solution? C'est-tu ça que Dieu nous dit? Absolument pas. Aimez-vous les uns les autres. C'est... Déjà là, on l'a là. Il y a C.S. Lewis qui l'a très bien expliqué, puis il dit ceci. Il est probablement impossible d'aimer trop un être humain, quel qu'il soit. Peut-être l'aimons-nous trop proportionnel à notre amour pour Dieu. Mais c'est la petitesse de notre amour pour Dieu et non la grandeur de notre amour pour l'humain qui constitue la démesure. Comprenez, c'est très bien expliqué. J'aime beaucoup M. Lewis. Il dit, on ne peut pas aimer trop un être humain. On ne peut pas trop aimer notre travail nécessairement. Mais l'idée, c'est juste une question de proportion. C'est pas qu'on aime trop quelque chose, c'est qu'on n'aime pas suffisamment Dieu. C'est la petitesse de notre amour pour Dieu qui devient la démesure. C'est impensable d'aimer Dieu si peu. C'est impensable. Le problème, c'est pas qu'on aime trop les autres choses. C'est qu'on aime tout simplement pas suffisamment Dieu. C'est une démesure, c'est la démesure de notre petitesse de l'amour, de l'attachement qu'on a pour Dieu, qui est le problème. Parce que Dieu nous dit d'aimer. Il nous dit d'aimer. Il nous dit de prendre plaisir dans les choses que le monde nous offre, qui sont bonnes. La bouffe n'est pas si bonne que ça parce que Dieu il veut qu'on s'en prive. Mais tout est une question de mesure. Il y a plein de bonnes choses que Dieu nous a données en lesquelles il veut qu'on prenne plaisir. Mais le problème, c'est que notre amour pour Dieu est trop petit. Et que toute la place, elle est simplement pour toutes les autres choses. Il est là la source de problème. Donc, c'est une question de grader ce que l'on aime, de mettre les choses dans la bonne priorité, de mettre les choses dans la bonne priorité. Il ne faut pas se mettre à stresser parce que là, j'aime tellement mon travail. Je l'aime trop. C'est pas bon. C'est pas vrai. Tu as le droit d'aimer ton travail. Tu as le droit d'aimer ce que tu fais. Tu as le droit d'aimer tes enfants, ta femme, ton mari à la folie. C'est correct, c'est bon, c'est bien. Mais c'est une question de où est-ce que tu mets Dieu dans ça? Est-ce que tu le mets en haut et lui, il est la source de tout ça? Cette joie-là et ce bonheur-là, est-ce que tout ce que tu aimes dans ce monde, tu le places sous l'autorité de Dieu et tu le mets dans la louange de Dieu? Voici les grâces que Dieu m'accorde et je lui rends grâce pour toutes ces choses-là à laquelle mon cœur est attaché. Aimons à la folie. Mais mettons Dieu à sa juste place dans notre vie. Et les souffrances, comme on a vu, ben, sont justement là pour purifier ces amours-là qui ont pris une place qui n'est pas la leur. Et de remettre Dieu à sa juste place dans nos vies. Voilà la seule et unique façon d'obtenir le calme, la tranquillité, la paix. Aimer Dieu plus que comment pouvons-nous aimer Dieu davantage? On le dit depuis le début. C'est de s'exposer constamment à lui. Puis regardez, c'est intéressant ce qui... Oh, j'ai oublié d'enlever la citation. On est dans Philippiens 4, verset 7. On n'est pas dans CS, c'est pas C.S. Lewis qui écrit ça. Il dit, « Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » La personne de Jésus. Sous la protection de la présence de Jésus-Christ. C'est en ça que notre paix va être gardée. La source de la paix de Dieu est la protection de Jésus-Christ. Et ça revient à la personne de Jésus. Ce n'est pas en regardant un Dieu abstrait, mais la personne et l'œuvre de Christ que nous parviendrons à aimer l'immuable et à trouver la sérénité. En Jésus-Christ, l'amour de Dieu pour nous devient concret et personnel. Comprenez? L'amour de Dieu devient concret dans la personne de Jésus-Christ. Et elle devient également personnel, c'est pour moi, mon péché, mon salut, ma purification, que Jésus a pris tout ça sur lui, les miens également. C'est en s'exposant à cette vérité-là, en nourrissant l'œuvre de Jésus-Christ dans notre pensée, que notre cœur va s'y attacher, de consacrer notre temps à s'exposer à ce qui est aimable. L'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est digne de notre amour, est digne de notre attachement. Donc, c'est de s'y exposer constamment, 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 pour qu'elle devienne personnelle. Penchez-vous sur ce que Jésus a fait pour vous. C'est ainsi que vous en viendrez à trouver Dieu irrésistiblement beau. Parce qu'en Jésus-Christ, ça devient concret et ça devient personnel. Donc, quelque chose d'important. Là. J'aimerais terminer avec une histoire. Celle de Horatio Spafford. Spafford, une affaire de même. Connaissez-vous ce monsieur-là? Horatio, c'est un nom qui nous dit quelque chose, ça, par exemple. C'est d'actualité. Bien, monsieur Horatio, c'était un Américain, c'était un avocat, qui a tout perdu lors de l'incendie de Chicago. Mais vous dites que vous ne le connaissez pas, mais en réalité, vous le connaissez. Je suis convaincu, vous allez comprendre pourquoi. C'est un homme, un avocat qui a tout perdu dans l'incendie de Chicago en 1871. 2 ans plus tard, il a envoyé sa femme, Anna, et leurs 4 petites filles en Grande-Bretagne par les voies maritimes. Et puis, leur bateau a heurté un autre navire et a commencé à couler. Anna a rassemblé ses 4 filles et elles ont prié. Le bateau a fait naufrage. Les passagers sont partis à la dérive et les 4 filles se sont noyées. Les secours ont retrouvé Anna inconsciente. Ils l'ont rapportée en Angleterre où elle a télégraphié 2 mots à son mari. Elle a écrit « Seule rescapée ». Imaginez la souffrance. Sur le bateau qu'il menait vers son épouse, M. Horatio a commencé à composer un hymne que l'on connaît très bien, qui est le suivant. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Connaissez ce chant-là? Quel repos, quel céleste repos. Mais quand on comprend l'histoire qui est derrière, ce chant-là prend une autre tournure. Comment est-ce qu'un homme qui a subi en l'espace de 2 ans, il a perdu tout, comme Job, il a vraiment perdu son travail, tout ce qu'il avait construit, puis par la suite, il a perdu les membres de sa famille, il lui restait juste son épouse. Et là, il retourne rejoindre son épouse, qu'il n'a pas vue depuis certainement un bon bout de temps. Quel repos céleste! Mon fardeau n'est plus. Et là, tout de suite, il se tourne vers Jésus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. C'est un homme qui, dans la souffrance, se tourne vers l'œuvre de Jésus-Christ pour trouver du réconfort. C'est exactement de ce qu'on a dit ce matin. La paix est possible dans la tempête lorsqu'on se tourne vers l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'elle va produire en nous un amour de ce qui est immuable, qui ne changera jamais, qui ne dépend pas des circonstances. Est-ce que parce qu'il a écrit ce chant-là, l'homme, M. Horatio, n'avait pas de peine pour la perte? Absolument pas. Il devait être dévasté. Mais en Dieu, en Jésus-Christ, il a su trouver la paix dans sa souffrance. Il n'a pas été déraciné. Il n'a pas été détruit. Il y a des gens qui vivent des drames comme ça et qui s'enlèvent la vie. Il y a des gens qui vivent des drames comme ça et ils se tournent vers l'alcool, vers la drogue, vers la sexualité, vers le travail à fond, vers le sport à fond. Ça les détruit. Ils sont déracinés, déstabilisés complètement. Ça, c'est une façon de vivre la souffrance qui te détruit en bout de ligne. Ce n'est pas ce que Dieu veut. En se tournant vers lui, on est en mesure, on la vit, la souffrance. Elle nous fait mal. D'aimer, c'est d'accepter de souffrir. C'est inévitable. Mais on n'est pas seul lorsqu'on souffre parce qu'on a aimé. On n'est pas détruit dans nos racines parce que nos racines ce que l'on est, notre force, le fait qu'on peut garder la tête hors de l'eau, ne dépend pas de ces circonstances-là. Et ça, ça ne pourra jamais nous être enlevé. Même la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Jésus pour nous. Il a vaincu la mort. De se rappeler ces vérités-là vont faire toute la différence. De développer ces disciplines-là dans nos vies, avant même que la souffrance arrive, va nous équiper, va nous permettre, lorsqu'on va être dans cette souffrance-là, de garder la tête hors de l'eau et de ne pas être complètement brisé, déraciné par ce que l'on vit à tout jamais. Parce qu'on s'attache sur la personne de Dieu. Allons dans la prière. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette œuvre que tu as faite sur la croix, qui est personnelle, Seigneur, à chacun de nous. Ça nous concerne tous. Sur la croix, Seigneur, tu as rendu concret ton amour. Tu as manifesté d'une façon tangible ton plan pour chacun de nous. Jésus a pris notre place. Père éternel, que cette œuvre que tu as accomplie sur la croix ne quitte jamais nos yeux, ne quitte jamais nos cœurs, peu importe les circonstances. Père éternel, on veut te demander d'attacher nos cœurs à toi, plus qu'à toute autre chose. Seigneur, viens faire cette œuvre dans nos vies. Que nos cœurs soient enracinés dans ton amour qui ne change pas, dans ta présence qui ne change pas, qui ne dépend pas des circonstances. Pour lorsque la tempête va se pointer dans nos vies, Seigneur, que l'on ne soit pas détruit, mais que ça nous rapproche de toi, Seigneur Jésus. Et qu'à travers ces souffrances, à travers ces moments difficiles, Seigneur Jésus, tu sois glorifié. Sois glorifié à travers nous. Que Seigneur Jésus, ces souffrances, ces moments d'épreuve par éternel, nous fassent grandir et nous fassent comprendre encore davantage ta personne, ton amour, ton œuvre. Et que ça nous purifie, Seigneur, et non que ça nous détruise. Seigneur, donne-nous de développer ces disciplines dans nos vies, de penser, de remercier et d'aimer, que nos cœurs s'attachent aux bonnes choses. À toi premièrement, Seigneur, et à tout ce qui en découle. On reconnaît, Seigneur Jésus, ta souveraineté, ta bonté envers chacun de nous. Que nos cœurs, Seigneur, saisissent ces vérités au plus profond de notre être. Que notre paix soit inébranlable, Seigneur Jésus, en toi. Peu importe les circonstances. C'est notre désir, Seigneur, et viens faire cette œuvre dans chacun de nos cœurs. Pour ta gloire, Père, dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Pour la suite, tournons-nous vers le Seigneur dans la louange, dans la prière, dans la reconnaissance de ce qu'il a fait pour chacun de nous.